Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
At Kroger Pharmacy, care is what's most convenient for you. Care is being here when you need us. We're open evenings and weekends. Care is helping you save more. Most insurance plans and discount cards are accepted at your local Kroger Pharmacy. Care is saving you time by managing your prescriptions online. You can request refills, check order status, and more. Care is convenience that works for everyone. Kroger Health, a world of care is in store. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. For coverage, consult your health insurance company. Visit the pharmacy or our site for details.
Chapitre 1 des tribulations d'un Chinois en Chine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay. Les tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne. Chapitre 1. Où la personnalité et la nationalité des personnages se dégagent peu à peu. Il faut pourtant convenir que la vie a du bon, s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit, entre deux quintes de toux, un autre, que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. « Soyons philosophes, » dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre, montée sur tige de bois. « Aujourd'hui, on risque de s'étrangler, et demain tout passe comme passent les suaves gorgées de ce nectar. C'est la vie, après tout. » Et cela dit, cet épicurien, d'humeur accommodante, avala un verre d'un excellent vin tiède, dont la légère vapeur s'échappait lentement d'une théière de métal. « Quant à moi, » reprit un quatrième convive, « l'existence me paraît très acceptable, du moment qu'on ne fait rien et qu'on a le moyen de ne rien faire. »« Erreur, » riposta le cinquième, « le bonheur est dans l'étude et le travail. Acquérir la plus grande somme possible de connaissances, c'est chercher à se rendre heureux. Et à apprendre que, tout compte fait, on ne sait rien. N'est-ce pas le commencement de la sagesse ?
Et quelle en est la fin ?
La sagesse n'a pas de fin. » répondit philosophiquement l'homme lunette. Avoir le sens commun serait la satisfaction suprême. Ce fut alors que le premier convive s'adressa directement à l'amphitryon, qui occupait le haut bout de la table, c'est-à-dire la plus mauvaise place, ainsi que l'exigeaient les lois de la politesse. Indifférent et distrait, celui-ci écoutait sans rien dire toute cette dissertation interpocula. Voyons, que pense notre hôte de ces divagations après boire ? Trouve-t-il aujourd'hui l'existence bonne ou mauvaise ? Est-il pour ou contre ? L'amphitryon croquait nonchalamment quelques pépins de pastèque. Il se contenta, pour toute réponse, d'avancer dédaigneusement les lèvres en homme qui semble ne prendre intérêt à rien. « Peu, » fit-il. « C'est, par excellence, le mot des indifférents. Il dit tout et ne dit rien. Il est de toutes les langues et doit figurer dans tous les dictionnaires du globe. C'est une moue articulée. » Les cinq convives que traitait cet ennuyé le pressèrent alors d'arguments, chacun en faveur de sa thèse. On voulait avoir son opinion. Il se défendit d'abord de répondre et finit par affirmer que la vie n'avait ni bon ni mauvais. À son sens, c'était une invention assez insignifiante, peu réjouissante en somme. Ah, voilà bien notre ami. Peut-il parler ainsi lorsque jamais un pli de rose n'a encore troublé son repos? Et quand il est jeune? Jeune et bien portant et riche. Très riche. Plus que très riche. Trop riche, peut-être. Ces interpellations s'étaient croisées comme les pétards d'un feu d'artifice, sans même amener un sourire sur l'impassible physionomie de l'amphitryon. Il s'était contenté de hausser légèrement les épaules, en homme qui n'a jamais voulu feuilleter, fût-ce une heure, le livre de sa propre vie, qui n'en a pas même coupé les premières pages. Et cependant, cet indifférent comptait 31 ans au plus, il se portait à merveille, il possédait une grande fortune, son esprit n'était pas sans culture, son intelligence s'élevait au-dessus de la moyenne, il avait enfin tout ce qui manque à tant d'autres pour être un des heureux de ce monde. Pourquoi ne l'était-il pas? Pourquoi? La voix grave du philosophe se fit alors entendre, et, parlant comme un coryphée du cœur antique. « Ami, dit-il, si tu n'es pas heureux ici-bas, c'est que jusqu'ici ton bonheur n'a été que négatif. C'est qu'il en est du bonheur comme de la santé. Pour en bien jouir, il faut en avoir été privé quelquefois. Or, tu n'as jamais été malade. Je veux dire, tu n'as jamais été malheureux. C'est là ce qui manque à ta vie. Qui peut apprécier le bonheur si le malheur ne l'a jamais touché, ne fût-ce qu'un instant ?» Et sur cette observation empreinte de sagesse, le philosophe, levant son verre plein d'un champagne puisé aux meilleures marques, « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte, dit-il, et quelques douleurs à sa vie. » Après quoi, il vida son verre tout d'un trait. L'amphitryon fit un geste d'acquiescement et retomba dans son apathie habituelle. Où se tenait cette conversation ? Était-ce dans une salle à manger européenne, à Paris, à Londres, à Vienne, à Pétersbourg ? Ces six convives devisaient-ils dans le salon d'un restaurant de l'Ancien ou du Nouveau Monde ? Quels étaient ces gens qui traitaient ces questions, au milieu d'un repas, sans avoir bu plus que de raison ? En tout cas, ce n'étaient pas des Français, puisqu'ils ne parlaient pas politique. Les six convives étaient attablés dans un salon de moyenne grandeur, luxueusement décoré. À travers le lacis des vitres bleues ou orangées, se glissaient, à cette heure, les derniers rayons du soleil. Extérieurement à la baie des fenêtres, la brise du soir balançait des guirlandes de fleurs naturelles ou artificielles, et quelques lanternes multicolores mêlaient leurs pâles lueurs aux lumières mourantes du jour. Au-dessus, la crête des baies s'enjolivait d'arabesques découpées, enrichies de sculptures variées, représentant des beautés célestes et terrestres, animaux ou végétaux d'une faune et d'une flore fantaisistes. Sur les murs du salon, tendus de tapis de soie, miroitaient de larges glaces à double biseau. Au plafond, une punka, agitant ses ailes de percale peinte, rendait supportable la température ambiante. La table, c'était un vaste quadrilatère en laque noire. Pas de nappe à sa surface qui reflétait les nombreuses pièces d'argenterie et de porcelaine comme eût fait une tranche du plus pur cristal. Pas de serviettes, mais de simples carrés de papier, ornés de devises, dont chaque invité avait près de lui une provision suffisante. Autour de la table se dressaient des sièges à dossiers de marbre, bien préférables sous cette latitude aux revers capitonnés de l'ameublement moderne. Quant au service, il était fait par des jeunes filles, fort avenantes, dont les cheveux noirs s'entremêlaient de lys et de chrysanthèmes, et qui portaient des bracelets d'or ou de jade, coquettement contournés à leurs bras. Souriantes et enjouées, elles servaient ou desservaient d'une main, tandis que, de l'autre, elles agitaient gracieusement un large éventail qui ravivait les courants d'air déplacés par la punka du plafond. Le repas n'avait rien laissé à désirer. Qu'imaginer de plus délicat que cette cuisine à la fois propre et savante ? Le bignon de l'endroit, sachant qu'il s'adressait à des connaisseurs, s'était surpassé dans la confection des 150 plats dont se composait le menu du dîner. Au début et comme entrée de jeu, figuraient des gâteaux sucrés, du caviar, des sauterelles frites, des fruits secs et des huîtres de Ningpo. Puis se succédèrent, à courts intervalles, des œufs pochés de canne, de pigeons et de vanneaux, des nids d'hirondelles aux œufs brouillés, des fricassés de ginseng, des ouïes d'esturgeon en compote, des nerfs de baleine sauce au sucre, des têtards d'eau douce, des jaunes de crabe en ragoût, des gésiers de moineaux et des yeux de mouton piqués d'une pointe d'ail, des ravioles au lait de noyaux d'abricot, des matelotes d'holoturie, des pousses de bambou au jus, des salades sucrées de jeunes radicelles, etc. Ananas de Singapour, pralines d'arachide, amandes salées, mangues savoureuses, fruits du longyen à chair blanche et du litchi à pulpe pâle, châtaignes d'eau, oranges de canton confites, formaient le dernier service d'un repas qui durait depuis 3 heures, repas largement arrosé de bière, de champagne, de vin de Shaoxing, et dont l'inévitable riz, poussé entre les lèvres des convives à l'aide de petits bâtonnets, allait couronner au dessert la savante ordonnance. Le moment vint enfin où les jeunes servantes apportèrent, non pas de ces bols à la mode européenne, qui contiennent un liquide parfumé, mais des serviettes imbibées d'eau chaude, que chacun des convives se passa sur la figure avec la plus extrême satisfaction. Ce n'était toutefois qu'un entracte dans le repas, une heure de farniente, dont la musique allait remplir les instants. En effet, une troupe de chanteuses et d'instrumentistes entra dans le salon. Les chanteuses étaient jeunes, jolies, de tenue modeste et décente. Mais quelle musique et quelle méthode ! Des miaulements, des gloussements,
sans mesure et sans tonalité, s'élevant en notes aiguës jusqu'aux dernières limites de perception du sens auditif. Quant aux instruments, violon dont les cordes s'enchevêtraient dans les fils de l'archet, guitare recouverte de peau de serpent, clarinette criarde, harmonica ressemblant à de petits pianos portatifs, ils étaient dignes des chants et des chanteuses, qu'ils accompagnaient à grand fracas. Le chef de ce charivarique orchestre avait remis en entrant le programme de son répertoire. Sur un geste de l'amphitryon, qui lui laissait carte blanche, ses musiciens jouèrent le bouquet des 10 fleurs, morceau très à la mode alors, dont raffolait le beau monde. Puis, la troupe chantante et exécutante, bien payée d'avance, se retira, non sans emporter force bravo, dont elle alla faire encore une importante récolte dans les salons voisins. Les 6 convives quittèrent alors leur siège, mais uniquement pour passer d'une table à une autre, ce qu'ils firent non sans grandes cérémonies et compliments de toutes sortes. Sur cette seconde table, chacun trouva une petite tasse à couvercle, agrémentée du portrait de Bodhidharma, le célèbre moine bouddhiste, debout sur son radeau légendaire. Chacun reçut aussi une pincée de thé, qu'il mit infusée, sans sucre, dans l'eau bouillante que contenait sa tasse, et qu'il but presque aussitôt. Quel thé ! Il n'était pas à craindre que la maison Jib Jib & Co., qui l'avait fourni, l'eût falsifié par le mélange malhonnête de feuilles étrangères, ni qu'il eût déjà subi une première infusion et ne fût plus bon qu'à balayer les tapis, ni qu'un préparateur indélicat l'eût teint en jaune avec la curcumine ou en vert avec le bleu de Prusse. C'était le thé impérial dans toute sa pureté. C'étaient ces feuilles précieuses, semblables à la fleur elle-même, ces feuilles de la première récolte du mois de mars, qui se fait rarement, car l'arbre en meurt. Ces feuilles, enfin, que de jeunes enfants, aux mains soigneusement gantées, ont seuls le droit de cueillir. Un Européen n'aurait pas eu assez d'interjections laudatives pour célébrer cette boisson, que les 6 convives humaient à petites gorgées, sans s'extasier autrement, en connaisseurs qui en avaient l'habitude. C'est que ceci, il faut le dire, n'en était plus à apprécier les délicatesses de cet excellent breuvage. Gens de la bonne société, richement vêtus de la hanchaol, légère chemisette, du makwal, courte tunique, de la haol, longue robe se boutonnant sur le côté, ayant aux pieds babouches jaunes et chaussettes piquées, aux jambes pantalons de soie que serrait à la taille une écharpe à glands, sur la poitrine le plastron de soie finement brodé, l'éventail à la ceinture, ces aimables personnages étaient nés au pays même où l'arbre à thé donne une fois l'an sa moisson de feuilles odorantes. Ce repas, dans lequel figuraient des nids d'hirondelles, des holothuries, des nerfs de baleine, des ailerons de requin, il l'avait savouré comme il le méritait pour la délicatesse de ses préparations. Mais son menu, qui eût étonné un étranger, n'était pas pour les surprendre. En tout cas, ce à quoi ne s'attendaient ni les uns ni les autres, ce fut la communication que leur fit l'amphitryon, au moment où ils allaient enfin quitter la table. Pourquoi celui-ci les avait traités, ce jour-là, ils l'apprirent alors. Les tasses étaient encore pleines. Au moment de vider la sienne pour la dernière fois, l'indifférent, s'accoudant sur la table, les yeux perdus dans le vague, s'exprima en ces termes. « Mes amis, écoutez-moi sans rire. Le sort en est jeté, je vais introduire dans mon existence un élément nouveau qui en dissipera peut-être la monotonie. Sera-ce un bien, sera-ce un mal? L'avenir me l'apprendra. Ce dîner, auquel je vous ai convié, est mon dîner d'adieu à la vie de garçon. Dans 15 jours, je serai marié et... » « Et tu seras le plus heureux des hommes !» s'écria l'optimiste. « Regarde, les pronostics sont pour toi !» En effet, tandis que les lampes crépitaient en jetant de pâles lueurs, l'épi jacassait sur les arabesques des fenêtres et les petites feuilles de thé flottaient perpendiculairement dans les tasses. Autant d'heureux présages qui ne pouvaient tromper. Aussi, tous de féliciter leur hôte, qui reçut ses compliments avec la plus parfaite froideur. Mais comme il ne nomma pas la personne, destinée au rôle d'élément nouveau, dont il avait fait choix, aucun n'eut l'indiscrétion de l'interroger à ce sujet. Cependant, le philosophe n'avait pas mêlé sa voix au concert général des félicitations. Les bras croisés, les yeux à demi clos, un sourire ironique sur les lèvres, il ne semblait pas plus approuver les complimenteurs que le complimenté. Celui-ci se leva alors, lui mit la main sur l'épaule, et, d'une voix qui semblait moins calme que d'habitude, « Suis-je donc trop vieux pour me marier ?» lui demanda-t-il. « Non. »« Trop jeune ? » ?»« pas davantage.
Tu trouves que j'ai tort?
Peut-être.
Celle que j'ai choisie, et que tu connais, a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux.
Je le sais.
Eh bien, c'est toi qui n'as pas tout ce qu'il faut pour l'être. S'ennuyer seul dans la vie, c'est mauvais. S'ennuyer à deux, c'est pire.
Je ne serai donc jamais heureux?
Non, tant que tu n'auras pas connu le malheur.
Le malheur ne peut m'atteindre.
Tant pis, car alors tu es incurable.
Ah, ces philosophes, s'écria le plus jeune des convives. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des machines à théorie. Ils en fabriquent de toutes sortes. Pure camelote qui ne vaut rien à l'user. Marie-toi, marie-toi, ami. J'en ferais autant si je n'avais fait vœu de ne jamais rien faire. Marie-toi et, comme disent nos poètes, puissent les deux phénix t'apparaître toujours tendrement unis. Mes amis, je bois au bonheur de notre hôte.
Et moi, répondit le philosophe, je bois à la prochaine intervention de quelque divinité protectrice qui, pour le rendre heureux, le fasse passer par l'épreuve du malheur. Sur ce toast assez bizarre, les convives se levèrent, rapprochèrent leurs poings comme eussent fait des boxeurs au moment de la lutte, puis, après les avoir successivement baissés et remontés en inclinant la tête, ils prirent congé les uns des autres. À la description du salon dans lequel ce repas a été donné, au menu exotique qui le composait, à l'habillement des convives, à leur manière de s'exprimer, peut-être aussi à la singularité de leur théorie, le lecteur a deviné qu'il s'agissait de Chinois, non de ces célestials qui semblent avoir été décollés d'un paravent ou être en rupture de potiche, mais de ces modernes habitants du céleste empire, déjà européanisés par leurs études, leurs voyages, leurs fréquentes communications avec les civilisés de l'Occident. En effet, c'était dans le salon d'un des bateaux-fleurs de la rivière des Perles à Canton que le riche Kin Fo, accompagné de l'inséparable Wang, le philosophe, venait de traiter quatre des meilleurs amis de sa jeunesse, Pao Shen, un mandarin de quatrième classe à boutons bleus, Yin Pang, riche négociant en soierie de la rue des pharmaciens, Tim le viveur endurci, et Wal le lettré. Et cela se passait le 27e jour de la quatrième lune, pendant la première de ces cinq veilles, qui se partagent si poétiquement les heures de la nuit chinoise. Fin du chapitre 1. Enregistré par Nadine Ecœur-de-Poulet, en février 2010. Chapitre 2 des Tribulations d'un Chinois en Chine, par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2, dans lequel Kin Fo et le philosophe Wang sont posés d'une façon plus nette. Si Kin Fo avait donné ce dîner d'adieu à ses amis de Canton, c'est que c'était dans cette capitale de la province de Kwangtung qu'il avait passé une partie de son adolescence. Des nombreux camarades que doit compter un jeune homme riche et généreux, les quatre invités du bateau-fleur étaient les seuls qui lui restassent à cette époque. Quant aux autres, dispersés au hasard de la vie, il eût vainement cherché à les réunir. Kin Fo habitait alors Shanghai, et pour faire changer d'air à son ennui, il était venu le promener pendant quelques jours à Canton. Mais ce soir même, il devait prendre le steamer qui fait escale aux points principaux de la côte et revenir tranquillement à son Yamen. Si Wang avait accompagné Kin Fo, c'est que le philosophe ne quittait jamais son élève, auquel les leçons ne manquaient pas. À vrai dire, celui-ci n'en tenait aucun compte. Autant de maximes et de sentences perdues. Mais la machine à théorie, ainsi que l'avait dit ce viveur de Tim, ne se fatiguait pas d'en produire. Kin Fo était bien le type de ces Chinois du Nord, dont la race tend à se transformer, et qui ne se sont jamais ralliés aux Tartares. On n'eût pas rencontré son pareil dans les provinces du Sud, où les hautes et basses classes se sont plus intimement mélangées avec la race mandchoue. Kin Fo, ni par son père ni par sa mère, dont les familles, depuis la conquête, se tenaient à l'écart, n'avait une goutte de sang tartare dans les veines. Grand, bien bâti, plutôt blanc que jaune, les sourcils tracés en droite ligne, les yeux disposés suivant l'horizontale et se relevant à peine vers les tempes, le nez droit, la face non aplatie, il eût été remarqué même auprès des plus beaux spécimens des populations de l'Occident. En effet, si Kin Fo se montrait chinois, ce n'était que par son crâne soigneusement rasé, son front et son cou sans un poil, sa magnifique queue, qui, prenant naissance à l'occiput, se déroulait sur son dos comme un serpent de jais. Très soigné de sa personne, il portait une fine moustache,
faisant demi-cercle autour de sa lèvre supérieure, et une mouche qui figurait exactement au-dessous le point d'orgue de l'écriture musicale. Ses ongles s'allongeaient de plus d'un centimètre, preuve qu'il appartenait bien à cette catégorie de gens fortunés qui peuvent vivre sans rien faire. Peut-être aussi la nonchalance de sa démarche, le hautain de son attitude, ajoutaient-ils encore à ce « comme il faut » qui se dégageait de toute sa personne. D'ailleurs, Kin Fo était né à Pékin, avantage dont les Chinois se montrent très fiers. À qui l'interrogeait, il pouvait superbement répondre « Je suis d'en haut ». C'était à Pékin, en effet, que son père Chung Heu demeurait au moment de sa naissance, et il avait 6 ans lorsque celui-ci vint se fixer définitivement à Shanghai. Ce digne Chinois, d'une excellente famille du nord de l'Empire, possédait, comme ses compatriotes, de remarquables aptitudes pour le commerce. Pendant les premières années de sa carrière, tout ce que produit ce riche territoire si peuplé, papier de Suatou, soierie de Suzhou, sucre candice de Formose, thé de Hankou et de Fuzhou, fer du Honan, cuivre rouge ou jaune de la province de Yunnan, tout fut pour lui élément de négoce et matière à trafic. Sa principale maison de commerce, son Hong, était à Shanghai, mais il possédait des comptoirs à Nankin, à Tianjin, à Macao, à Hong Kong. Très mêlé au mouvement européen, c'étaient les steamers anglais qui transportaient ses marchandises, c'était le câble électrique qui lui donnait le cours des soieries à Lyon et de l'opium à Calcutta. Aucun de ces agents du progrès, vapeur ou électricité, ne le trouvait réfractaire, ainsi que le sont la plupart des Chinois, sous l'influence des mandarins et du gouvernement, dont ce progrès diminue peu à peu le prestige. Bref, Chung Heu manœuvra si habilement, aussi bien dans son commerce avec l'intérieur de l'Empire que dans ses transactions avec les maisons portugaises, françaises, anglaises ou américaines de Shanghai, de Macao et de Hong Kong, qu'au moment où Kin Fo venait au monde, sa fortune dépassait déjà 400 000 $. Or, pendant les années qui suivirent, cette épargne allait être doublée grâce à la création d'un trafic nouveau qu'on pourrait appeler le commerce des coulis du Nouveau Monde. On sait, en effet, que la population de la Chine est surabondante et hors de proportion avec l'étendue de ce vaste territoire, diversement mais poétiquement nommé Céleste Empire, Empire du Milieu, Empire ou Terre des Fleurs. On ne l'évalue pas à moins de 360 millions d'habitants. C'est presque un tiers de la population de toute la Terre. Or, si peu que mange le Chinois pauvre, il mange. Et la Chine, même avec ses nombreuses rizières, ses immenses cultures de millet et de blé, ne suffit pas à le nourrir. De là un trop-plein qui ne demande qu'à s'échapper par ces trouées que les canons anglais et français ont faites aux murailles matérielles et morales du Céleste Empire. C'est vers l'Amérique du Nord, et principalement sur l'État de Californie, que s'est déversé ce trop-plein. Mais cela s'est fait avec une telle violence que le Congrès a dû prendre des mesures restrictives contre cette invasion, assez impoliment nommée la peste jaune. Ainsi qu'on l'a fait observer, 50 millions d'émigrants chinois aux États-Unis n'auraient pas sensiblement amoindri la Chine, et c'eût été l'absorption de la race anglo-saxonne au profit de la race mongole. Quoi qu'il en soit, l'exode se fit sur une vaste échelle. Ces coulis, vivant d'une poignée de riz, d'une tasse de thé et d'une pipe de tabac, aptes à tous les métiers, réussirent rapidement au lac Salé, en Virginie, dans l'Oregon et surtout dans l'État de Californie, où ils abaissèrent considérablement le prix de la main-d'œuvre. Des compagnies se formèrent donc pour le transport de ces émigrants si peu coûteux. On en compta 5 qui opéraient le racolage dans 5 provinces du Céleste Empire et une 6e fixée à San Francisco. Les premières expédiaient, la dernière recevait la marchandise. Une agence annexe, celle de Ting Tong, la réexpédiait. Ceci demande une explication. Les Chinois veulent bien s'expatrier et aller chercher fortune chez les Mélicains, nom qu'ils donnent aux populations des États-Unis, mais à une condition, c'est que leurs cadavres seront fidèlement ramenés à la terre natale pour y être enterrés. C'est une des conditions principales du contrat, une clause sine qua non, qui oblige les compagnies envers les migrants, et rien ne saurait la faire éluder. Aussi, la Ting Tong, autrement dit l'agence des morts, disposant de fonds particuliers, est-elle chargée de fréter les navires à cadavres qui repartent à pleine charge de San Francisco pour Shanghai, Hong Kong ou Tianjin. Nouveau commerce, nouvelle source de bénéfices. L'habile et entreprenant Chung Heu sentit cela. Au moment où il mourut, en 1866, il était directeur de la compagnie de Kuangtan, dans la province de ce nom, et sous-directeur de la Caisse des Fonds des Morts à San Francisco. Ce jour-là, Kin Fo, n'ayant plus ni père ni mère, héritait d'une fortune évaluée à 4 millions de francs, placée en actions de la centrale banque californienne, qu'il eut le bon sens de garder. Au moment où il perdit son père, le jeune héritier, âgé de 19 ans, se fut trouvé seul, s'il n'eût eu Wang, l'inséparable Wang, pour lui tenir lieu de mentor et d'ami. Or, qu'était ce Wang ? Depuis 17 ans, il vivait dans le Yamen de Shanghai. Il avait été le commensal du père avant d'être celui du fils. Mais d'où venait-il ? À quel passé pouvait-on le rattacher ? Autant de questions assez obscures auxquelles Chung Heu et Kin Fo auraient seuls pu répondre. Et s'ils avaient jugé convenable de le faire, ce qui n'était pas probable, voici ce que l'on eût appris. Personne n'ignore que la Chine est, par excellence, le royaume où les insurrections peuvent durer pendant bien des années et soulever des centaines de mille hommes. Or, au XVIIe siècle, la célèbre dynastie des Ming, d'origine chinoise, régnait depuis 300 ans sur la Chine lorsque, en 1644, le chef de cette dynastie, trop faible contre les rebelles qui menaçaient la capitale, demanda secours à un roi tartare. Le roi ne se fit pas prier, accourut, chassa les révoltés, profita de la situation pour renverser celui qui avait imploré son aide et proclama empereur son propre fils Chun Che. À partir de cette époque, l'autorité tartare fut substituée à l'autorité chinoise et le trône occupé par des empereurs mandchous. Peu à peu, surtout dans les classes inférieures de la population, les deux races se confondirent. Mais chez les familles riches du Nord, la séparation entre Chinois et Tartares se maintint plus strictement. Aussi le type se distingue-t-il encore, et plus particulièrement au milieu des provinces septentrionales de l'Empire. Là se cantonnèrent les irréconciliables, qui restèrent fidèles à la dynastie déchue. Le père de Kin Fo était de ces derniers, et il ne démentit pas les traditions de sa famille, qui avait refusé de pactiser avec les Tartares. Un soulèvement contre la domination étrangère, même après 300 ans d'exercice, l'eût trouvé prêt à agir. Inutile d'ajouter que son fils Kin Fo partageait absolument ses opinions politiques. Or, en 1860, régnait encore cet empereur Xian Fong, qui déclara la guerre à l'Angleterre et à la France, guerre terminée par le traité de Pékin, le 25 octobre de la dite année. Mais, avant cette époque, un formidable soulèvement menaçait déjà la dynastie régnante. Les Chang Mao ou Taiping, les rebelles aux longs cheveux, s'étaient emparés de Nankin en 1853 et de Shanghai en 1855. Xian Fong mort, son jeune fils eut fort à faire pour repousser les Taiping. Sans le vice-roi Li, sans le prince Kong, et surtout sans le colonel anglais Gordon, peut-être n'eût-il pu sauver son trône. C'est que ces Taiping, ennemis déclarés des Tartares, fortement organisés pour la rébellion, voulaient remplacer la dynastie des Tsing par celle des Wang. Ils formaient quatre bandes distinctes, la première à bannière noire, chargée de tuer, la seconde à bannière rouge, chargée d'incendier, la troisième à bannière jaune, chargée de piller, la quatrième à bannière blanche, chargée d'approvisionner les trois autres. Il y eut d'importantes opérations militaires dans le Kiangsu. Su Cheu et Kia Hing, à 5 lieues de Shanghai, tombèrent au pouvoir des révoltés et furent repris, non sans peine, par les troupes impériales. Shanghai, très menacée, était même attaquée, le 18 août 1860, au moment où les généraux Grant et Montauban, commandant l'armée anglo-française, canonnaient l'effort du Peiho. Or, à cette époque, Chung Heu, le père de Kin Fo, occupait une habitation près de Shanghai, non loin du magnifique pont que les ingénieurs chinois avaient jeté sur la rivière de Su Cheu. Ce soulèvement des Taiping, il n'avait pu le voir d'un mauvais œil, puisqu'il était principalement dirigé contre la dynastie tartare. Ce fut donc dans ces conditions que, le soir du 18 août, après que les rebelles eurent été rejetés hors de Shanghai, la porte de l'habitation de Tchoung Héou s'ouvrit brusquement. Un fuyard, ayant pu dépister ceux qui le poursuivaient, vint tomber aux pieds de Tchoung Héou. Ce malheureux n'avait plus une arme pour se défendre. Si celui auquel il venait demander asile le livrait à la soldatesque impériale, il était perdu. Le père de Kin Fo n'était pas homme à trahir un Taiping qui avait cherché refuge dans sa maison. Il referma la porte et dit « Je ne veux pas savoir, je ne saurai jamais qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens. Tu es mon hôte et, par cela seul, en sûreté chez moi. » Le fugitif voulut parler pour exprimer sa reconnaissance. Il en avait à peine la force. « Ton nom ?» lui demanda Tchoung Héou. « Wang. » C'était Wang, en effet, sauvé par la générosité de Tchoung Héou, générosité qui aurait coûté la vie à ce dernier si l'on avait soupçonné qu'il donnât asile à un rebelle. Mais Tchoung Héou était de ces hommes antiques à qui tout hôte est sacré. Quelques années après, le soulèvement des rebelles était définitivement réprimé. En 1864, l'empereur Taiping, assiégé dans Nankin, s'empoisonnait pour ne pas tomber aux mains des impériaux. Wang, depuis ce jour, resta dans la maison de son bienfaiteur. Jamais il n'eut à répondre sur son passé. Personne ne l'interrogea à cet égard. Peut-être craignait-on d'en apprendre trop. Les atrocités commises par les révoltés avaient été, dit-on, épouvantables. Sous quelle bannière avait servi Wang? La jaune, la rouge, la noire ou la blanche? Mieux valait l'ignorer, en somme, et conserver l'illusion qu'il n'avait appartenu qu'à la colonne de ravitaillement. Wang, enchanté de son sort d'ailleurs, demeura donc le commensal de cette hospitalière maison. Après la mort de Tchoung Héou, son fils n'eut garde de se séparer de lui, tant il était habitué à la compagnie de cet aimable personnage. Mais en vérité, à l'époque où commence cette histoire, qui eût jamais reconnu un ancien Taiping, un massacreur, un pillard ou un incendiaire, au choix, dans ce philosophe de 55 ans, ce moraliste à lunettes, ce chinois chinoisant, yeux relevés vers les tempes, moustache traditionnelle? Avec sa longue robe de couleur peu voyante, sa ceinture relevée sur la poitrine par un commencement d'obésité, sa coiffure réglée suivant le décret impérial, c'est-à-dire un chapeau de fourrure au bord dressé le long d'une calotte, d'où s'échappaient des houppes de filets rouges, n'avait-il pas l'air d'un brave professeur de philosophie, de l'un de ces savants qui font couramment usage des 80 000 caractères de l'écriture chinoise, d'un lettré du dialecte supérieur, d'un premier lauréat de l'examen des docteurs, ayant le droit de passer sous la grande porte de Pékin, réservée au fils du ciel? Peut-être, après tout, oubliant un passé plein d'horreur, le rebelle s'était-il bonifié au contact de l'honnête Tchoung Héou, et avait-il tout doucement bifurqué sur le chemin de la philosophie spéculative? Et voilà pourquoi ce soir-là, Kin Fo et Wang, qui ne se quittaient jamais, étaient ensemble à Canton, pourquoi, après ce dîner d'adieu, tous deux s'en allaient par les quais à la recherche du steamer qui devait les ramener rapidement à Shanghai. Kin Fo marchait en silence, un peu soucieux même. Wang, regardant à droite, à gauche, philosophant à la lune, aux étoiles, passait en souriant sous la porte de l'éternelle pureté, qu'il ne trouvait pas trop haute pour lui, sous la porte de l'éternelle joie, dont les battants lui semblaient ouverts sur sa propre existence, et il vit enfin se perdre dans l'ombre les tours de la pagode des 500 divinités. Le steamer Perma était là, sous pression. Kin Fo et Wang s'installèrent dans les deux cabines retenues pour eux. Le rapide courant du fleuve des perles, qui entraîne quotidiennement avec la fange de ses berges des corps de suppliciés, imprima au bateau une extrême vitesse. Le steamer passa comme une flèche entre les ruines laissées çà et là par les canons français, devant la pagode à 9 étages de Halfway, devant la pointe Jardine, près de Whampoa, où mouillent les plus gros bâtiments, entre les îlots et les estacades de bambous des deux rives. Les 150 kilomètres, c'est-à-dire les 375 lys, qui séparent Canton de l'embouchure du fleuve, furent franchis dans la nuit. Au lever du soleil, le Perma dépassait la gueule du Tigre, puis les deux barres de l'estuaire. Le Victoria Peak de l'île de Hong Kong, haut de 1825 pieds, apparut un instant dans la brume matinale après la plus heureuse des traversées, Kin Fo et le philosophe, refoulant les eaux jaunâtres du fleuve bleu, débarquaient à Shanghai, sur le littoral de la province de Kiangnan. Fin du chapitre 2. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet en février 2010.
Chapitre 3 des Tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Où le lecteur pourra, sans fatigue, jeter un coup d'œil sur la ville de Shanghai. Un proverbe chinois dit « Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, quand les prisons sont vides et les greniers pleins, quand les degrés des temples sont usés par les pas des fidèles et les cours des tribunaux couvertes d'herbes, quand les médecins vont à pied et les boulangers à cheval, l'Empire est bien gouverné. » Le proverbe est bon. Il pourrait s'appliquer justement à tous les états de l'Ancien et du Nouveau Monde. Mais s'il en est un où ce désiratum soit encore loin de se réaliser, c'est précisément le Céleste Empire. Là, ce sont les sabres qui reluisent et les bêches qui se rouillent, les prisons qui regorgent et les greniers qui se désemplissent. Les boulangers chôment plus que les médecins, et, si les pagodes attirent les fidèles, les tribunaux, en revanche, ne manquent ni de prévenus ni de plaideurs. D'ailleurs, un royaume de 180 000 milles carrés, qui, du nord au sud, mesure plus de 800 lieues, et, de l'est à l'ouest, plus de 900, qui compte 18 vastes provinces, sans parler des pays tributaires, la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, le Tonkin, la Corée, les îles Liuchu, etc., ne peut être que très imparfaitement administré. Si les Chinois s'en doutent bien un peu, les étrangers ne se font aucune illusion à cet égard. Seul, peut-être, l'empereur, enfermé dans son palais dont il franchit rarement les portes, à l'abri des murailles d'une triple ville, ce fils du ciel, père et mère de ses sujets, faisant ou défaisant les lois à son gré, ayant droit de vie et de mort sur tous, et auquel appartiennent, par sa naissance, les revenus de l'Empire, ce souverain, devant qui les fronts se traînent dans la poussière, trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne faudrait même pas essayer de lui prouver qu'il se trompe. Un fils du ciel ne se trompe jamais. Kin Fo avait-il eu quelque raison de penser que mieux vaut être gouverné à l'européenne qu'à la chinoise? On serait tenté de le croire. En effet, il demeurait, non dans Shanghai, mais en dehors, sur une portion de la concession anglaise, qui se maintient dans une sorte d'autonomie très appréciée. Shanghai, la ville proprement dite, est située sur la rive gauche de la petite rivière Huangpu, qui, se réunissant à angle droit avec le Wusong, va se mêler au Yangtze-Kiang, ou fleuve bleu, et de là se perd dans la mer jaune. C'est un ovale, couché du nord au sud, enceint de hautes murailles, percé de 5 portes s'ouvrant sur ses faubourgs. Réseau inextricable de ruelles d'allées, que les balayeuses mécaniques s'useraient à nettoyer, boutiques sombres sans devanture ni étalage, où fonctionnent des boutiquiers nus jusqu'à la ceinture. Pas une voiture, pas un palanquin, à peine des cavaliers. Quelques temples indigènes ou chapelles étrangères. Pour toute promenade, un jardin thé et un champ de parade assez marécageux, établi sur un sol de remblai, comblant d'anciennes rizières et sujet aux émanations paludéennes. À travers ces rues, au fond de ces maisons étroites, une population de 200 000 habitants, telle est cette cité d'une habitabilité peu enviable, mais qui n'en a pas moins une grande importance commerciale. Là, en effet, après le traité de Nankin, les étrangers eurent pour la première fois le droit de fonder des comptoirs. Ce fut la grande porte ouverte, en Chine, au trafic européen. Aussi, en dehors de Shanghai et de ses faubourgs, le gouvernement a-t-il concédé, moyennant une rente annuelle, 3 portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains, qui sont au nombre de 2 000 environ. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville et s'étend jusqu'au ruisseau de Yangqingpang, qui la sépare du territoire anglais. Là s'élèvent les églises des lazaristes et des jésuites, qui possèdent aussi, à 4 000 de Shanghai, le collège de Tsikavé, où ils forment des bacheliers chinois. Mais cette petite colonie française n'égale pas ses voisines à beaucoup près. Des 10 maisons de commerce, fondées en 1861, il n'en reste plus que 3,
et le comptoir d'escompte a même préféré s'établir sur la concession anglaise. Le territoire américain occupe la partie en retour sur le Wusung. Il est séparé du territoire anglais par le Soochew Creek, que traverse un pont de bois. Là se voit l'hôtel Astor, l'église des missions. Là se creusent les docks installés pour la réparation des navires européens. Mais des trois concessions, la plus florissante est, sans contredit, la concession anglaise. Habitations somptueuses sur les quais, maisons à vérandas et à jardins, palais des princes du commerce, l'Oriental Bank, le Hong de la célèbre maison Dent avec sa raison sociale du Lao Chi Chang, les comptoirs des Jardine, des Russell et autres grands négociants, le club anglais, le théâtre, le jeu de paume, le parc, le champ de course, la bibliothèque, tel est l'ensemble de cette riche création des Anglo-Saxons qui a justement mérité le nom de colonie modèle. C'est pourquoi, sur ce territoire privilégié, sous le patronage d'une administration libérale, ne s'étonnera-t-on pas de trouver, ainsi que le dit M. Léon Rousset, une ville chinoise d'un caractère tout particulier et qui n'a d'analogue nulle part ailleurs. Ainsi donc, en ce petit coin de terre, l'étranger, arrivé par la route pittoresque du fleuve bleu, voyait quatre pavillons se développer au souffle de la même brise, les trois couleurs françaises et le yacht du Royaume-Uni, les étoiles américaines et la croix de Saint-André, jaune sur fond vert, de l'Empire des Fleurs. Quant aux environs de Shanghai, pays plat, sans un arbre, coupé d'étroites routes empierrées et de sentiers tracés à angle droit, troués de citernes et d'arroyaux, distribuant l'eau à d'immenses rizières, sillonnés de canaux portant des jonques qui dérivent au milieu des champs, comme les gribanes à travers les campagnes de la Hollande, c'était une sorte de vaste tableau, très vert de ton, auquel eût manqué son cadre. Le Perma, à son arrivée, avait accosté le quai du port indigène devant le faubourg est de Shanghai. C'est là que Wang et Kin Fo débarquèrent dans l'après-midi. Le va-et-vient des gens affairés était énorme sur la rive, indescriptible sur la rivière. Les jonques par centaines, les bateaux-fleurs, les sampans, sortes de gondoles conduites à la godille, les gigues et autres embarcations de toute grandeur, formaient comme une ville flottante où vivait une population maritime qu'on ne peut évaluer à moins de 40 000 âmes, population maintenue dans une situation inférieure et dont la partie aisée ne peut s'élever jusqu'à la classe des lettrés ou des mandarins. Les deux amis s'en allèrent en flânant sur le quai, au milieu de la foule hétéroclite, marchands de toutes sortes, vendeurs d'arachides, d'oranges, de noix d'arec ou de pamplemousse, marins de toutes nations, porteurs d'eau, diseurs de bonne aventure, bonzes, lamas, prêtres catholiques, vêtus à la chinoise avec queue et éventail, soldats indigènes, tipao, les sergents de ville de l'endroit, et compradors, sorte de commis courtiers, qui font les affaires des négociants européens. Kin Fo, son éventail à la main, promenait sur la foule son regard indifférent, et ne prenait aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Ni le son métallique des piastres mexicaines, ni celui des taëls d'argent, ni celui des sapèques de cuivre, que vendeurs et chalands échangeaient avec bruit, n'aurait pu le distraire. Il en avait de quoi acheter et payer comptant le faubourg tout entier. Wang, lui, avait déployé son vaste parapluie jaune, décoré de monstres noirs, et, sans cesse orienté, comme doit l'être un chinois de race, il cherchait partout matière à quelque observation. En passant devant la porte de l'Est, son regard s'accrocha, par hasard, à une douzaine de cages en bambou où grimaçaient des têtes de criminels qui avaient été exécutés la veille. « Peut-être, dit-il, y aurait-il mieux à faire que d'abattre des têtes. Ce serait de les rendre plus solides. » Kin Fo n'entendit sans doute pas la réflexion de Wang, qui l'eût certainement étonné de la part d'un ancien Taiping. Tous deux continuèrent à suivre le quai, en tournant les murailles de la ville chinoise. À l'extrémité du faubourg, au moment où ils allaient mettre le pied sur la concession française, un indigène, vêtu d'une longue robe bleue, frappant d'un petit bâton une corne de buffle qui rendait un son strident, venait d'attirer la foule. « Ancien Cheng, dit le philosophe. « Que nous importe ? » répondit Kin Fo. « Ami, reprit Wang, demande-lui donc la bonne aventure. C'est une occasion au moment de te marier. » Kin Fo voulait continuer sa route. Wang le retint. Le Xiancheng est une sorte de prophète populaire qui, pour quelques sapèques, fait métier de prédire l'avenir. Il n'a d'autres ustensiles professionnels qu'une cage, renfermant un petit oiseau, cage qu'il accroche à l'un des boutons de sa robe, et un jeu de 64 cartes, représentant des figures de dieux, d'hommes ou d'animaux. Les Chinois de toute classe, généralement superstitieux, ne font point fi des prédictions du Xiancheng, qui, probablement, ne se prend pas au sérieux. Sur un signe de Wang, celui-ci étala à terre un tapis de cotonnade, y déposa sa cage, tira son jeu de cartes, le bâtit et le disposa sur le tapis, de manière que les figures fussent invisibles. La porte de la cage fut alors ouverte. Le petit oiseau sortit, choisit une des cartes et rentra, après avoir reçu un grain de riz pour récompense. Le Xiancheng retourna la carte. Elle portait une figure d'homme et une devise, écrite en Kunan Rima, cette langue mandarine du Nord, langue officielle qui est celle des gens instruits. Et alors, s'adressant à Kin Fo, le diseur de bonne aventure lui prédit ce que ses confrères de tout pays prédisent invariablement sans se compromettre, à savoir qu'après quelque épreuve prochaine, il jouirait de 10 000 années de bonheur. « Une, répondit Kin Fo, une seulement, et je te tiendrai quitte du reste. » Puis il jeta à terre un taël d'argent, sur lequel le prophète se précipita comme un chien affamé sur un os à moelle. De pareilles aubaines ne lui étaient pas ordinaires. Cela fait, Wang et son élève se dirigèrent vers la colonie française, le premier songeant à cette prédiction qui s'accordait avec ses propres théories sur le bonheur, le second sachant bien qu'aucune épreuve ne pouvait l'atteindre. Ils passèrent ainsi devant le consulat de France, remontèrent jusqu'au ponceau jeté, sur Yangqingpang, traversèrent le ruisseau, prirent obliquement à travers le territoire anglais, de manière à gagner le quai du port européen. Midi sonnait alors. Les affaires, très actives pendant la matinée, cessèrent comme par enchantement. La journée commerciale était pour ainsi dire terminée, et le calme allait succéder au mouvement, même dans la ville anglaise, devenue chinoise sous ce rapport. En ce moment, quelques navires étrangers arrivaient au port, la plupart sous le pavillon du Royaume-Uni. 9 sur 10, il faut bien le dire, sont chargés d'opium. Cette abrutissante substance, ce poison dont l'Angleterre encombre la Chine, produit un chiffre d'affaires qui dépasse 260 millions de francs et rapporte 300% de bénéfices. En vain le gouvernement chinois a-t-il voulu empêcher l'importation de l'opium dans le Céleste Empire. La guerre de 1841 et le traité de Nankin ont donné libre entrée à la marchandise anglaise et gain de cause aux princes marchands. Il faut, d'ailleurs, ajouter que, si le gouvernement de Pékin a été jusqu'à édicter la peine de mort contre tout Chinois qui vendrait de l'opium, il est des accommodements moyennant finance avec les dépositaires de l'autorité. On croit même que le mandarin gouverneur de Shanghai encaisse 1 million annuellement, rien qu'en fermant les yeux sur les agissements de ses administrés. Il va sans dire que ni Kin Fo ni Wang ne s'adonnaient à cette détestable habitude de fumer l'opium, qui détruit tous les ressorts de l'organisme et conduit rapidement à la mort. Aussi, jamais une once de cette substance n'était-elle entrée dans la riche habitation, où les deux amis arrivaient, une heure après avoir débarqué sur le quai de Shanghai. Wang, ce qui aurait encore surpris de la part d'un ex-Taiping, n'avait pas manqué de dire « Peut-être y aurait-il mieux à faire que d'importer l'abrutissement à tout un peuple. Le commerce, c'est bien, mais la philosophie, c'est mieux. Soyons philosophes avant tout. Soyons philosophes. » Fin du chapitre 3. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet en février 2010. Chapitre 4 des Tribulations d'un Chinois en Chine, par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4, dans lequel Kin Fo reçoit une importante lettre qui a déjà 8 jours de retard. Un yamen est un ensemble de constructions variées, rangées suivant une ligne parallèle, qu'une seconde ligne de kiosques et de pavillons vient couper perpendiculairement. Le plus ordinairement, le yamen sert d'habitation aux mandarins d'un rang élevé et appartient à l'empereur. Mais il n'est point interdit aux riches célestiales d'en posséder en toute propriété, et c'était un de ces somptueux hôtels qu'habitait l'opulent Kin Fo. Wang et son élève s'arrêtèrent à la porte principale, ouverte au front de la vaste enceinte qui entourait les diverses constructions du yamen, ses jardins et ses cours. Si, au lieu de la demeure d'un simple particulier, c'eût été celle d'un magistrat mandarin, un gros tambour aurait occupé la première place sous l'auvent découpé et peinturluré de la porte. Là, de nuit comme de jour, seraient venus frapper ceux de ses administrés qui auraient eu à réclamer justice. Mais, au lieu de ce tambour des plaintes, de vastes jarres en porcelaine ornaient l'entrée du Yamen et contenaient du thé froid, incessamment renouvelé par les soins de l'intendant. Ces jarres étaient à la disposition des passants, générosité qui faisait honneur à Kin Fo. Aussi était-il bien vu, comme on dit, de ses voisins de l'Est et de l'Ouest. À l'arrivée du maître, les gens de la maison accoururent à la porte pour le recevoir. Valets de chambre, valets de pied, portiers, porteurs de chaises, palefreniers, cochers, servants, veilleurs de nuit, cuisiniers, tout ce monde qui compose la domesticité chinoise fit la haie sous les ordres de l'intendant. Une dizaine de coolies, engagés au mois pour les gros ouvrages, se tenaient un peu en arrière. L'intendant souhaita la bienvenue au maître du logis. Celui-ci fit à peine un signe de la main et passa rapidement. « Soun ? » dit-il seulement. « Soun ? » répondit Wang en souriant. « Si Soun était là, ce ne serait plus Soun. »« Où est Soun ? » répéta Kin Fo. L'intendant dut avouer que ni lui ni personne ne savait ce qu'était devenu Soun. Or, Soun n'était rien moins que le premier valet de chambre, spécialement attaché à la personne de Kin Fo, et dont celui-ci ne pouvait en aucune façon se passer. Soun était-il donc un domestique modèle ? Non. Impossible de faire plus mal son service. Distrait, incohérent, maladroit de ses mains et de sa langue, foncièrement gourmand, légèrement poltron, un vrai chinois de paravent celui-là, mais fidèle en somme, et le seul, après tout, qui eut le don d'émouvoir son maître. Kin Fo trouvait 20 fois par jour l'occasion de se fâcher contre Soun, et, s'il ne le corrigeait que 10, c'était autant de prix sur sa nonchalance habituelle et de quoi mettre sa bile en mouvement. Un serviteur hygiénique, on le voit. D'ailleurs, Soun, ainsi que font la plupart des domestiques chinois, venait de lui-même au-devant de la correction quand il l'avait méritée. Son maître ne la lui épargnait pas. Les coups de rotin pleuvaient sur ses épaules, ce dont Soun se préoccupait peu. Mais, à quoi il se montrait infiniment plus sensible, c'était aux ablations successives que Kin Fo faisait subir à la queue nattée qui lui pendait sur le dos lorsqu'il s'agissait de quelque faute grave. Personne n'ignore, en effet, combien le chinois tient à ce bizarre appendice. La perte de la queue, c'est la première punition qu'on applique aux criminels. C'est un déshonneur pour la vie. Aussi, le malheureux valet ne redoutait-il rien tant que d'être condamné à en perdre un morceau. Il y a 4 ans, lorsque Soun entra au service de Kin Fo, sa queue, une des plus belles du Céleste Empire, mesurait 1,25 m. À l'heure qu'il est, il n'en restait plus que 57 cm. À continuer ainsi, Soun, dans 2 ans, serait entièrement chauve. Cependant, Wang et Kin Fo, suivis respectueusement des gens de la maison, traversèrent le jardin, dont les arbres, encaissés pour la plupart dans des vases en terre cuite, et taillés avec un art surprenant, mais regrettable, affectaient des formes d'animaux fantastiques. Puis, ils contournèrent le bassin, peuplé de gouramis et de poissons rouges, dont l'eau limpide disparaissait sous les larges fleurs rouges pâles du Nelumbo, le plus beau des nénuphars originaires de l'Empire des Fleurs. Ils saluèrent un hiéroglyphique quadrupède, peint en couleurs violentes sur un mur ad hoc, comme une fresque symbolique, et ils arrivèrent enfin à la porte de la principale habitation du Yamen. C'était une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, élevée sur une terrasse à laquelle 6 gradins de marbre donnaient accès. Des claies de bambou étaient tendues comme des auvents devant les portes et les fenêtres, afin de rendre supportable la température déjà excessive, en favorisant l'aération intérieure. Le toit plat contrastait avec le faîtage fantaisiste des pavillons semés çà et là dans l'enceinte du Yamen, et dont les créneaux, les tuiles multicolores, les briques découpées en fines arabesques, amusaient le regard. Au-dedans, à l'exception des chambres spécialement réservées au logement de Wang et de Kin Fo, ce n'étaient que salons entourés de cabinets à cloisons transparentes, sur lesquels couraient des guirlandes de fleurs peintes, ou des exergues de ces sentences morales dont les célestials ne sont point avares. Partout, des sièges bizarrement contournés, en terre cuite ou en porcelaine, en bois ou en marbre, sans oublier quelques douzaines de coussins d'un moelleux plus engageant. Partout, des lampes ou des lanternes aux formes variées, aux verres nuancés de couleurs tendres et plus harnachés de glands, de franges et de houppes qu'une mule espagnole. Partout aussi, de ces petites tables à thé qu'on appelle chaki, complément indispensable d'un mobilier chinois. Quant aux ciselures d'ivoire et d'écaille, aux bronzes niellés, aux brûle-parfums, aux lacs agrémentés de filigranes d'or en relief, aux jades blancs laiteux et verts émeraudes, aux vases ronds ou prismatiques de la dynastie des Ming et des Tsing, aux porcelaines plus recherchées encore de la dynastie des Yen, aux émaux cloisonnés roses et jaunes translucides, dont le secret est introuvable aujourd'hui, on eût, non pas perdu, mais passé des heures à les compter. Cette luxueuse habitation offrait toute la fantaisie chinoise alliée au confort européen. En effet, Kin Fo, on l'a dit et ses goûts le prouvent, était un homme de progrès. Aucune invention moderne des Occidentaux ne le trouvait réfractaire à leur importation. Il appartenait à la catégorie de ces fils du ciel, trop rares encore, que séduisent les sciences physiques et chimiques. Il n'était donc pas de ces barbares qui coupèrent les premiers fils électriques que la maison Reynolds voulut établir jusqu'au Wusung dans le but d'apprendre plus rapidement l'arrivée des malles anglaises et américaines, ni de ces mandarins arriérés qui, pour ne pas laisser le câble sous-marin de Shanghai à Hong Kong s'attacher à un point quelconque du territoire, obligèrent les électriciens à le fixer sur un bateau flottant en pleine rivière. Non. Kin Fo se joignait à ceux de ses compatriotes qui approuvaient le gouvernement d'avoir fondé les arsenaux et les chantiers de Fuzhou sous la direction d'ingénieurs français. Aussi possédait-il des actions de la compagnie de ces steamers chinois qui font le service entre Tianjin et Shanghai dans un intérêt purement national, et était-il intéressé dans ces bâtiments à grande vitesse qui depuis Singapour gagnent 3 ou 4 jours sur la malle anglaise. On a dit que le progrès matériel s'était introduit jusque dans son intérieur. En effet, des appareils téléphoniques mettaient en communication les divers bâtiments de son yamen. Des sonnettes électriques reliaient les chambres de son habitation. Pendant la saison froide, il faisait du feu et se chauffait sans honte, plus avisé en cela que ses concitoyens, qui gèlent devant l'âtre vide sous leurs quadruples vêtements. Il s'éclairait au gaz tout comme l'inspecteur général des douanes de Pékin, tout comme le richissime M. Yang, principal propriétaire des Monts de Piété de l'Empire du Milieu. Enfin, dédaignant l'emploi suranné de l'écriture dans sa correspondance intime, le progressif Kin Fo, on le verra bientôt, avait adopté le phonographe, récemment porté par Edison au dernier degré de la perfection. Ainsi donc, l'élève du philosophe Wang avait, dans la partie matérielle de la vie autant que dans sa partie morale, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et il ne l'était pas. Il avait Sun pour détendre son apathie quotidienne, et Sun même ne suffisait pas à lui donner le bonheur. Il est vrai que, pour le moment du moins, Sun, qui n'était jamais où il aurait dû être, ne se montrait guère. Il devait sans doute avoir quelques fautes graves à se reprocher, quelques grosses maladresses commises en l'absence de son maître, et s'il ne craignait pas pour ses épaules, habituées aux rotins domestiques, tout portait à croire qu'il tremblait surtout pour sa queue. « Sun !» avait dit Kin Fo, en entrant dans le vestibule, sur lequel s'ouvraient les salons de droite et de gauche, et sa voix indiquait une impatience mal contenue. « Sun !» avait répété Wang, dont les bons conseils et les objurgations étaient toujours restés sans effet sur l'incorrigible valet. « Que l'on découvre Sun et qu'on me l'amène !» dit Kin Fo en s'adressant à l'intendant, qui mit tout son monde à la recherche de l'introuvable. Wang et Kin Fo restèrent seuls. « La sagesse, dit alors le philosophe, commande au voyageur qui rentre à son foyer de prendre quelque repos. « Soyons sages, répondit simplement l'élève de Wang. Et, après avoir serré la main du philosophe, il se dirigea vers son appartement, tandis que Wang regagnait sa chambre. Kin Fo, une fois seul, s'étendit sur un de ces moelleux divans de fabrication européenne dont un tapissier chinois n'eût jamais su disposer le confortable capitonnage. Là, il se prit à songer. Fût-ce à son mariage avec l'aimable et jolie femme dont il allait faire la compagne de sa vie? Oui, et cela ne peut surprendre, puisqu'il était à la veille d'aller la rejoindre. En effet, cette gracieuse personne ne demeurait pas à Shanghai. Elle habitait Pékin, et Kin Fo se dit même qu'il serait convenable de lui annoncer, en même temps que son retour à Shanghai, son arrivée prochaine dans la capitale du Céleste Empire. Si même il marquait un certain désir, une légère impatience de la revoir, cela ne serait pas déplacé. Très certainement, il éprouvait une véritable affection pour elle. Wang le lui avait bien démontré d'après les plus indiscutables règles de la logique, et cet élément nouveau introduit dans son existence pourrait peut-être en dégager l'inconnu, c'est-à-dire le bonheur, dont Kin Fo rêvait déjà les yeux fermés, et il se fût tout doucement endormi s'il n'eût senti une sorte de chatouillement à sa main droite. Instinctivement, ses doigts se refermèrent et saisirent un corps cylindrique légèrement noueux, de raisonnable grosseur, qu'ils avaient certainement l'habitude de manier. Kin Fo ne pouvait s'y tromper. C'était un rotin qui s'était glissé dans sa main droite, et, en même temps, ces mots, prononcés d'un ton résigné, se faisaient entendre. « Quand monsieur voudra. » Kin Fo se redressa, et, par un mouvement bien naturel, il brandit le rotin correcteur. Sun était devant lui, à demi courbé, dans la posture d'un patient, présentant ses épaules. Appuyé d'une main sur le tapis de la chambre, de l'autre, il tenait une lettre. Enfin te voilà, dit Kin Fo. Aïe, 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 répondit Sun. Je n'attendais mon maître qu'à la troisième veille. Quand monsieur voudra. Kin Fo jeta le rotin à terre. Sun, si jaune qu'il fût naturellement, parvint cependant à pâlir. « Si tu offres ton dos sans autre explication, dit le maître, c'est que tu mérites mieux que cela. Qu'y a-t-il ? » « Cette lettre. »« Parle donc, » s'écria Kin Fo, en saisissant la lettre que lui présentait Sun. « J'ai bien maladroitement oublié de vous la remettre avant votre départ pour Canton. »«
8 jours de retard, coquin ? » ?»«
J'ai eu tort, mon maître. »«
Viens ici. »
Je suis comme un pauvre crabe sans pattes qui ne peut marcher. Aïe, aïe, aïe! Ce dernier cri était un cri de désespoir. Kin Fo avait saisi Sun par sa natte et, d'un coup de ciseau bien affilé, il venait d'en trancher l'extrême bout. Il faut croire que les pattes repoussèrent instantanément au malencontre crabe, car il détala prestement, non sans avoir ramassé sur le tapis le morceau de son précieux appendice. De 57 centimètres, la queue de Sun se trouvait réduite à 54. Kin Fo, redevenu parfaitement calme, s'était rejeté sur le divan et examinait en homme que rien ne presse la lettre arrivée depuis 8 jours. Il n'en voulait à Sun que de sa négligence, non du retard. En quoi une lettre quelconque pouvait-elle l'intéresser? Elle ne serait la bienvenue que si elle lui causait une émotion. Une émotion à lui. Il la regardait donc, mais distraitement. L'enveloppe, faite d'une toile empesée, montrait à l'adresse, et au dos, divers timbres postes de couleurs vineuses et chocolat, portant en exergue au-dessous d'un portrait d'homme les chiffres de 2 et de 6 cents. Cela indiquait qu'elle venait des États-Unis d'Amérique. « Bon, » fit Kin Fo en haussant les épaules, « une lettre de mon correspondant de San Francisco. » Et il rejeta la lettre dans un coin du divan. En effet, que pouvait lui apprendre son correspondant ? Que les titres qui composaient presque toute sa fortune dormaient tranquillement dans les caisses de la centrale banque californienne, que ses actions avaient monté de 15 ou 20%, que les dividendes à distribuer dépasseraient ceux de l'année précédente, etc. Quelques milliers de dollars de plus ou de moins n'étaient vraiment pas pour l'émouvoir. Toutefois, quelques minutes après, Kin Fo reprit la lettre et en déchira machinalement l'enveloppe. Mais, au lieu de la lire, ses yeux n'en cherchèrent d'abord que la signature. « C'est bien une lettre de mon correspondant, » dit-il. « Il ne peut que me parler d'affaires. À demain, les affaires. » Et, une seconde fois, Kin Fo allait rejeter la lettre, lorsque son regard fut tout à coup frappé par un mot souligné plusieurs fois au recto de la deuxième page. C'était le mot « passif » sur lequel le correspondant de San Francisco avait évidemment voulu attirer l'attention de son client de Shanghai. Kin Fo reprit alors la lettre à son début, et la lut de la première à la dernière ligne, non sans un certain sentiment de curiosité qui devait surprendre de sa part. Un instant, ses sourcils se froncèrent, mais une sorte de dédaigneux sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il eut achevé sa lecture. Kin Fo se leva alors, fit une vingtaine de pas dans sa chambre, s'approcha un instant du tuyau acoustique qui le mettait en communication directe avec Wang. Il porta même le cornet à sa bouche, et fut sur le point de faire résonner le sifflet d'appel. Mais il se ravisa, laissa retomber le serpent de caoutchouc, et revint s'étendre sur le divan. « Peu !» fit-il. Tout Kin Fo était dans ce mot. « Et elle ? » murmura-t-il. « Elle est vraiment plus intéressée que moi dans tout cela. » Il s'approcha alors d'une petite table de laque, sur laquelle était posée une boîte oblongue, précieusement ciselée. Mais, au moment de l'ouvrir, sa main s'arrêta. « Que me disait sa dernière lettre ? » murmura-t-il. Et, au lieu de lever le couvercle de la boîte, il poussa un ressort, fixé à l'une des extrémités. Aussitôt une douce voix de se faire entendre. « Mon petit frère aîné, ne suis-je plus pour vous comme la fleur Meiwa à la première lune, comme la fleur de l'abricotier à la deuxième, comme la fleur du péché à la troisième? Mon cher cœur de pierre précieuse, à vous mille, à vous 10 000 bonjours !» C'était la voix d'une jeune femme, dont le phonographe répétait les tendres paroles. « Pauvre petite sœur cadette !» dit Kin Fo. Puis, ouvrant la boîte, il retira de l'appareil le papier, zébré de rainures, qui venait de reproduire toutes les inflexions de la lointaine voix, et le remplaça par un autre. Le phonographe était alors perfectionné à un point qu'il suffisait de parler à voix haute pour que la membrane fût impressionnée et que le rouleau, mû par un mouvement d'horlogerie, enregistra les paroles sur le papier de l'appareil. Kin Fo parla donc pendant 1 minute environ. À sa voix, toujours calme, on eût pu reconnaître sous quelle impression de joie ou de tristesse il formulait sa pensée. 3 ou 4 phrases, pas plus, ce fut tout ce que dit Kin Fo. Cela fait, il suspendit le mouvement du phonographe, retira le papier spécial sur lequel l'aiguille, actionnée par la membrane, avait tracé des rainures obliques, correspondant aux paroles prononcées. Puis, plaçant ce papier dans une enveloppe qu'il cacheta, il écrivit de droite à gauche l'adresse que voici, « Madame Léou, avenue de Chakwa, Pékin ». Un timbre électrique fit aussitôt accourir celui des domestiques qui était chargé de la correspondance. Ordre lui fut donné de porter immédiatement cette lettre à la poste. 1 heure après, Kin Fo dormait paisiblement, en pressant dans ses bras son Chufujen, sorte d'oreiller de bambou tressé, qui maintient dans les lits chinois une température moyenne, très appréciable sous ces chaudes latitudes. Fin du chapitre 4. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, en mars 2010. Chapitre 5 des Tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 dans lequel Léou reçoit une lettre qu'elle eût préféré ne pas recevoir.
« Tu n'as pas encore de lettre pour moi ?»«
Eh non, madame !»«
Que le temps me paraît long, vieille mère !»
Ainsi, pour la 10e fois de la journée, parlait la charmante Léou dans le boudoir de sa maison de l'avenue Chakwa, à Pékin. La vieille mère qui lui répondait, et à laquelle elle donnait cette qualification usitée en Chine pour les servantes d'un âge respectable, c'était la grognonne et désagréable mademoiselle Nan. Léou avait épousé à 18 ans un lettré de premier grade, qui collaborait au fameux Sekou Tsuanchu. Ce savant avait le double de son âge et mourut 3 ans après cette union disproportionnée. La jeune veuve s'était donc trouvée seule au monde, lorsqu'elle n'avait pas encore 21 ans. Kin Fo la vit dans un voyage qu'il fit à Pékin, vers cette époque. Wang, qui la connaissait, attira l'attention de son indifférente élève sur cette charmante personne. Kin Fo se laissa aller tout doucement à l'idée de modifier les conditions de sa vie en devenant le mari de la jolie veuve. Léou ne fut point insensible à la proposition qui lui fut faite. Et voilà comment le mariage, décidé pour la plus grande satisfaction du philosophe, devait être célébré dès que Kin Fo, après avoir pris à Shanghai les dispositions nécessaires, serait de retour à Pékin. Il n'est pas commun, dans le céleste empire, que les veuves se remarient. non qu'elles ne le désirent autant que leurs similaires des contrées occidentales, mais parce que ce désir trouve peu de copartageants. Si Kin Fo fit exception à la règle, c'est que Kin Fo, on le sait, était un original. Les Ou remariés, il est vrai, n'auraient plus le droit de passer sous les Paélou, arc commémoratif que l'empereur fait quelquefois élever en l'honneur des femmes célèbres par leur fidélité à l'époux défunt. Telle, la veuve Song, qui ne voulut plus jamais quitter le tombeau de son mari, la veuve Kong Kiang, qui se coupa un bras, la veuve Yen Chiang, qui se défigura en signe de douleur conjugale. Mais Léou pensa qu'il y avait mieux à faire de ses 20 ans. Elle allait reprendre cette vie d'obéissance, qui est tout le rôle de la femme dans la famille chinoise, renoncer à parler des choses du dehors, se conformer aux préceptes du livre Linun sur les vertus domestiques et du livre Neitsiopien sur les devoirs du mariage, retrouver enfin cette considération dont jouit l'épouse, qui, dans les classes élevées, n'est point une esclave, comme on le croit généralement. Aussi Léou, intelligente, instruite, comprenant quelle place elle aurait à tenir dans la vie du riche ennuyé, et se sentant attirée vers lui par le désir de lui prouver que le bonheur existe ici-bas, était toute résignée à son nouveau sort. Le savant, à sa mort, avait laissé la jeune veuve dans une situation de fortune aisée, quoique médiocre. La maison de l'avenue Chakwa était donc modeste. L'insupportable Nan en composait tout le domestique. Mais Léou était faite à ses regrettables manières, qui ne sont point spéciales aux servantes de l'Empire des Fleurs. C'était dans son boudoir que la jeune femme se tenait de préférence. L'ameublement en aurait semblé fort simple, n'eussent été les riches présents qui, depuis 2 grands mois, arrivaient de Shanghai. Quelques tableaux appendaient au mur, entre autres un chef-d'œuvre du vieux peintre Wan Zhenen, qui aurait accaparé l'attention des connaisseurs, au milieu d'aquarelles très chinoises, à chevaux verts, chiens violets et arbres bleus, dus à quelques artistes modernes du cru. Sur une table de laque se déployaient, comme de grands papillons aux ailes étendues, des éventails venus de la célèbre école de Swatow. D'une suspension de porcelaine s'échappaient d'élégants festons de ces fleurs artificielles, si admirablement fabriquées avec la moelle de l'Arabia papyrifera de l'île de Formose, et qui rivalisaient avec les blancs nénuphars, les jaunes chrysanthèmes et les lys rouges du Japon, dont regorgeaient des jardinières en bois finement fouillées. Sur tout cet ensemble, les nattes de bambou tressées des fenêtres ne laissaient passer qu'une lumière adoucie, et tamisaient, en les égrenant, pour ainsi dire, les rayons solaires. Un magnifique écran, fait de grandes plumes d'épervier, dont les taches, artistement disposées, figuraient une large pivoine, cet emblème de la beauté dans l'Empire des Fleurs, 2 volières en forme de pagode, véritable kaléidoscope des plus éclatants oiseaux de l'Inde, quelques thiémaols éoliens, dont les plaques de verre vibraient sous la brise, 1000 objets enfin auxquels se rattachait une pensée de l'absent, complétaient la curieuse ornementation de ce boudoir. « Pas encore de lettres, Nan ?»« Eh non, madame, pas encore !» C'était une charmante jeune femme que cette jeune Léou. Jolie, même pour des yeux européens, blanche et non jaune, elle avait de 12 yeux se relevant à peine vers les tempes, des cheveux noirs ornés de quelques fleurs de pêcher, fixés par des épingles de jade vert, des dents petites et blanches, des sourcils à peine estompés d'une fine touche d'encre de Chine. Elle ne mettait ni crépi de miel et de blanc d'Espagne sur ses joues, ainsi que le font généralement les beautés du céleste empire, ni rond de carmin sur sa lèvre inférieure, ni petit trait vertical entre les 2 yeux, ni aucune couche de ce fard dont la cour impériale dépense annuellement pour 10 millions de sapèques. La jeune veuve n'avait que faire de ces ingrédients artificiels. Elle sortait peu de sa maison de Chakwa, et, dès lors, pouvait dédaigner ce masque, dont toute femme chinoise fait usage hors de chez elle. Quant à la toilette de Léou, rien de plus simple et de plus élégant. Une longue robe à 4 fentes, ourlée d'un large galon brodé, sous cette robe une jupe plissée, à la taille un plastron agrémenté de sous-taches en filigrane d'or, un pantalon rattaché à la ceinture et se nouant sur la chaussette de soie nankin, de jolies pantoufles ornées de perles. Il n'en fallait pas plus à la jeune veuve pour être charmante, si l'on ajoute que ses mains étaient fines et qu'elle conservait ses ongles, longs et rosés, dans de petits étuis d'argent, ciselée avec un art exquis. Et ses pieds? Eh bien, ses pieds étaient petits, non par suite de cette coutume de déformation barbare qui tend heureusement à se perdre, mais parce que la nature les avait fait tels. Cette mode dure depuis 700 ans déjà, et elle est probablement due à quelque princesse estropiée. Dans son application la plus simple, opérant la flexion de 4 orteils sous la plante, tout en laissant le calcanéum intact, elle fait de la jambe une sorte de tronc de cône, gêne absolument la marche, prédispose à l'anémie, et n'a pas même pour raison d'être, comme on a pu le croire, la jalousie des époux. Aussi s'en va-t-elle de jour en jour, depuis la conquête tartare. Maintenant, on ne compte pas 3 Chinoises sur 10 ayant été soumises dès le premier âge à cette suite d'opérations douloureuses qui entraînent la déformation du pied.
« Il n'est pas possible qu'une lettre n'arrive pas aujourd'hui !» dit encore Léo. « Voyez donc, vieille mère !»«
Ah, c'est tout vu !»
répondit fort irrespectueusement Mademoiselle Nan, qui sortit de la chambre en grommelant. Léo voulut alors travailler pour se distraire un peu. C'était encore penser à Kin Fo, puisqu'elle lui brodait une paire de ses chaussures d'étoffe, dont la fabrication est presque uniquement réservée à la femme, dans les ménages chinois, à quelque classe qu'elle appartienne. Mais l'ouvrage lui tomba bientôt des mains. Elle se leva, prit dans une pomponnière 2 ou 3 pastèques, qui craquèrent sous ses petites dents, puis elle ouvrit un livre, le Nushun, ce code d'instruction dont toute honnête épouse doit faire sa lecture habituelle. De même que le printemps est pour le travail la saison favorable, de même l'aube est le moment le plus propice de la journée. Levez-vous de bonne heure, ne vous laissez pas aller aux douceurs du sommeil. Soignez le mûrier et le chanvre, filez avec zèle la soie et le coton. La vertu des femmes est dans l'activité et l'économie. Les voisins feront votre éloge. Le livre se ferma bientôt. La tendre Léo ne songeait même pas à ce qu'elle lisait.
« Où est-il ? » se demanda-t-elle. « Il a dû aller à Canton. Est-il de retour à Shanghai ? Quand arrivera-t-il à Pékin ? La mère lui a-t-elle été propice ? Que la déesse Koanine lui vienne en aide ?»
Ainsi disait l'inquiète jeune femme. Puis, ses yeux se portèrent distraitement sur un tapis de table, artistement fait de 1000 petits morceaux rapportés, une sorte de mosaïque d'étoffe à la mode portugaise, où se dessinait le canard mandarin et sa famille, symbole de la fidélité. Enfin, elle s'approcha d'une jardinière et cueillit une fleur au hasard.
« Ah ! » dit-elle, « ce n'est pas la fleur du saule-vert, emblème du printemps, de la jeunesse et de la joie. C'est le jaune chrysanthème, emblème de l'automne et de la tristesse. » Elle voulut réagir contre l'anxiété qui, maintenant, l'envahissait tout entière. Son luth était là. Ses doigts en firent résonner les cordes. Ses lèvres murmurèrent les premières paroles du chant des mains unies, mais elle ne put continuer. « Ces lettres, pensait-elle, n'avaient pas de retard autrefois. Je les lisais, l'âme émue. Ou bien, au lieu de ces lignes qui ne s'adressaient qu'à mes yeux, c'était sa voix même que je pouvais entendre. Là, cet appareil me parlait comme s'il eût été près de moi. » Et Léo regardait un phonographe, posé sur un guéridon de lac, en tout semblable à celui dont Kin Fo se servait à Shanghai. Tous deux pouvaient ainsi s'entendre, ou plutôt entendre leur voix, malgré la distance qui les séparait. Mais, aujourd'hui encore, comme depuis quelques jours, l'appareil restait muet et ne disait plus rien des pensées de l'absent. En ce moment, la vieille mère entra. « La voilà, votre lettre !» dit-elle. Et Nan sortit, après avoir remis à Léo une enveloppe timbrée de Shanghai. Un sourire se dessina sur les lèvres de la jeune femme. Ses yeux brillèrent d'un plus vif éclat. Elle déchira l'enveloppe, rapidement, sans prendre le temps de la contempler, ainsi qu'elle avait l'habitude de le faire. Ce n'était point une lettre que contenait cette enveloppe, mais un de ces papiers à rainures obliques qui, ajustés dans l'appareil phonographique, reproduisent toutes les inflexions de la voix humaine. « Ah, j'aime encore mieux cela !» s'écria joyeusement Léo. « Je l'entendrai au moins !»
Le papier fut placé sur le rouleau du phonographe, qu'un mouvement d'horlogerie fit aussitôt tourner, et Léo, approchant son oreille, entendit une voix bien connue qui disait « Petite sœur cadette, la ruine a emporté mes richesses comme le vent d'Est emporte les feuilles jaunies de l'automne.
Je ne veux pas faire une misérable en l'associant à ma misère. Oubliez celui que 10 000 malheurs ont frappé. Votre désespéré Kin Fo. » Quel coup pour la jeune femme! Une vie plus amère que la mère Gentiane l'attendait maintenant. Oui, le vent d'or emportait ses dernières espérances avec la fortune de celui qu'elle aimait. L'amour que Kin Fo avait pour elle s'était-il donc à jamais envolé? Son ami ne croyait-il qu'au bonheur que donne la richesse? Ah! Pauvre Léo! Elle ressemblait maintenant au cerf-volant dont le fil casse et qui retombe brisé sur le sol.
Nan, appelée, entra dans la chambre, haussa les épaules et transporta sa maîtresse sur son hang. Mais, bien que ce fût un de ces lits poêles, chauffés artificiellement, combien sa couche parut froide à l'infortuné Léo! Que les 5 veilles de cette nuit sans sommeil lui semblèrent longues à passer.
Fin du chapitre 5. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet en mars 2010.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.